Point de mire.
Une association, une œuvre, une fondation.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Une action, une organisation, une institution.
On retrouve Émilie Julia.
Bonjour et bienvenue dans cette émission Point de mire. Le ministère de la Culture a 50 ans en 2009. Je vous propose d'écouter Émile Biasini, l'ancien bras droit de Malraux, qui s'exprime à l'occasion de cet anniversaire, puisqu'il fut directeur des arts et des lettres dès la création du ministère des Affaires culturelles en 1959. Les souvenirs sont intacts. Je vous propose de revivre quelques moments intenses de ce ministère, un retour sur une époque qui voit la naissance de l'action culturelle et des maisons de la culture.
C'est toute une histoire. Mes débuts ne datent pas du ministère de la Culture. Et si je suis venu au ministère, c'est parce que j'ai rencontré Malraux dès 1958. Et j'étais chargé à ce moment-là, j'étais administrateur de la France Outre-mer, et j'avais travaillé Outre-mer pour la décolonisation. Et je pensais que nous n'avions rien à faire dans ce pays, j'étais au Dahomey, et que le seul apport qu'on pouvait pratiquer pour les Africains, c'était de leur apprendre une langue leur permettant d'être en contact avec le monde. Parce qu'il m'est arrivé d'avoir affaire en brousse à trois interprétations, tellement des gens qui parlaient apparemment pour moi la même langue ne se comprenaient pas. Et je pensais que l'apport que nous pouvions faire le plus réel, en dehors du profit qu'on pouvait en tirer, mais j'étais pas dans un pays où on avait un profit économique, le Dahomey, mais en Guinée où je suis allé après, ça s'est vérifié. Mon effort a tendu vers deux objectifs. Nous devons partir. Et quand nous sommes partis, il faut que les Africains aient une langue. Et j'ai créé des centres de culture, je n'appelais pas ça de culture, puisque le mot culture est de beaucoup postérieur à cela. Et j'ai créé en Afrique un mouvement au point que le dernier ministre de la France Outre-mer, là, en face de cette rue, m'a nommé directeur de l'information et m'a demandé à son cabinet de m'occuper de la partie du référendum de 1958 qui permettait aux pays africains d'être indépendants. Et à ce titre, auparavant, le ministre de cette époque-là était gouverneur général de l'AOF et il m'avait donné comme mission d'apprivoiser Sékou Touré. J'ai bien connu Sékou Touré. C'est-à-dire que je participais à une action qui était déjà une préfiguration d'action culturelle.
Donc on peut dire que c'est vous qui avez créé les maisons de la culture.
J'ai créé, avec Malraux. Malraux a émis une idée qu'il y a dans la culture quelque chose qui n'est pas de la connaissance. Ce que je trouve formidable dans l'apport de Malraux, qui par ailleurs, c'est autre chose. Et ces définitions de la culture comme quelque chose qui touche, c'est le coup de foudre. C'est le même phénomène. On se trouve une chose belle, on peut pour cela ignorer de qui il s'agit. Il y a donc dans la culture un langage universel, et moi, ce langage universel, je l'ai utilisé à des fins qui n'avaient rien à voir avec une action de culture. D'ailleurs, c'est si vrai qu'il n'y avait pas du tout de crédit dans les budgets d'outre-mer pour la culture, et que les premières maisons de la culture que j'ai construites, la première que j'ai construite, je l'ai construite en 1949.
Où ça ?
À Djoun, au Dahomey. Et je l'ai construite parce que le gouverneur général, vous savez, j'avais une action qui était assez individuelle. Et outre-mer, je ne veux pas faire de vanité, mais j'étais relativement assez connu. Et le ministre, le gouverneur général de Dakar, alors que j'étais, moi, dans un pays, au Dahomey, venait me voir, on était pas amis, mais très proches. Et il m'a donné des crédits pour faire une maison des combattants, car c'était à la mode à l'époque, c'était en 1949, n'oublions pas.
Bien sûr,
à la sortie de la guerre. Et j'en ai fait, moi, une maison de la culture.
Comment Malraux vous repère ? Parce que je crois que c'est lui qui vous choisit au départ, qui est un peu émerveillé par votre travail.
Parce qu'il est chargé en 1958 dans le gouvernement, il est ministre d'État, il n'a rien d'autre chose à faire que de suivre les préparations du référendum de 1958, le référendum qui a créé la Ve République, et qui avait une partie africaine dont je m'occupais moi. Et c'est comme ça que Malraux... Et quand j'ai expliqué mon affaire à Malraux, il m'a dit, mais on va faire une maison des pays ayant voté oui pour la France, sauf la Guinée, décidé avec Malraux. J'ai dit, mais je vais faire une maison de la culture d'un type français pour le futur, à Fort-Lamy. Et Malraux m'a donné son accord, a obtenu celui de De Gaulle. Et on a imaginé, c'est comme ça qu'il m'a demandé, parce que j'étais venu après 58, je suis allé, il voulait que je vienne avec lui à son cabinet. Puis j'étais très ami avec Pierre Moineau qui y était. Enfin, le 9 janvier 59, quand il a créé, il a voulu que je vienne à son cabinet. Mais moi, j'avais tellement travaillé à l'autonomie des territoires que j'ai voulu aller voir ce qui se passait dans un territoire. Et j'ai été le premier secrétaire général de la République du Tchad. Et là, j'ai dit à Malraux, mais je vais faire une maison de... On n'appelait pas encore maison de culture, mais on fait une maison française. Et il m'a dit, mais faites-la avec Le Corbusier. Et c'est comme ça qu'on a mis au point le premier programme de maison de culture. Mais au bout de quelques mois, j'ai eu assez de l'indépendance, pas de l'indépendance, mais de la vie au Tchad, parce que je pouvais m'occuper, j'étais le patron du Conseil des ministres, vraiment. J'aurais pu déclarer la guerre à la Chine, quitter la zone française, je crois que je l'écris. Mais par contre, muter une infirmière dans le poste, ça, le gouvernement, ça se battait, ça m'intéressait plus. Alors, hormis le projet que je faisais pour Malraux, pour moi, et avec Le Corbusier, et Malraux a signé l'arrêté me nommant à son cabinet en disant à son directeur, quand Biasini peut venir, vous le nommez. Et puis on a choisi la date du 1er janvier 60, mais purement théorique. Voilà comment j'ai connu Malraux. Et surtout, je crois que l'idée de ma venue, quand Malraux, il y a un homme dont on ne parle pas et qui a eu une importance énorme, c'est Gaëtan Picon, qui était un type tout à fait exceptionnel. Et Malraux avait nommé, c'est une bonne décision, Gaëtan Picon, responsable des arts et des lettres, qui était un peu le domaine culturel populaire, mais où on recevait les étrangers, etc. Et c'était Jaujard qui dirigeait ce service comme un homme, comme un conseiller, comme un ambassadeur. Et Picon était chargé de rendre accessible au plus grand nombre, ce qui est le titre même du ministère. Mais il était perdu, c'était un philosophe qui était un ami de Malraux depuis 1932. Et il avait écrit à Malraux après La Condition Humaine pour rentrer en contact avec lui. Et il a fait des livres sur Malraux. Enfin, Malraux l'aimait beaucoup. Et il a choisi un homme. Mais ce type était perdu car les services des arts et lettres, qui étaient rue Saint-Dominique, étaient des services où les gens, où les fonctionnaires allaient au théâtre tous les soirs, avaient une vie mondaine, mais aucune vie en profondeur. Et Picon était complètement perdu. Et quand nous sommes revenus d'Afrique, Malraux, dans l'avion, m'a dit, mais au fond, vous devriez aller donner un coup de main à Gaëtan Picon. Et je suis allé voir Gaëtan Picon, qui était paumé dans son grand bureau. J'ai dit, son vendredi, je lui ai ouvert la... J'ai réformé les arts et lettres, j'ai créé la direction de l'action culturelle, et c'est comme ça que je suis devenu. Et avec Picon, j'ai eu avec Picon une intimité de travail. Il savait lire Hegel, je lui ai écrit, mais pas du tout un bordereau administratif, il était paumé dans son bureau. Et quand je l'ai vu, il était tout seul dans une grande pièce avec une ronde lumière, et il était perdu. Je lui donnais de la vie, on est devenus amis d'une façon plus qu'amis, on était comme deux moitiés d'une pomme. Et c'est Gaëtan Picon qui a exprimé, selon moi, la meilleure définition de l'action culturelle en disant « la vie culturelle est à la connaissance ce que la vie politique est à l'histoire ». C'est une formule géniale qui caractérise bien. On fait de la culture sans faire... La connaissance est autre chose.
Vous pourriez nous préciser cette conception de la culture qui change avec cette
qui
nouvelle
change, c'est la culture, idée. C'est la vie, c'est l'apport de données culturelles dont nous faisons de la culture en ce moment. On ne parle pas des béaba. Et je crois que la création du ministère de l'Éducation nationale, c'est formidable. Mais les universitaires se disent « c'est pas vrai ». Et l'ENA aujourd'hui est une bêtise. Dans sa formation, on fait de la technique administrative une fin en soi. Non, la culture, c'est autre chose. C'est ça, ce que nous faisons en ce moment.
Est-ce que cette expérience au ministère de la Culture vous a plu?
Mais
est-ce que vous êtes réalisé
choses, c'est pas le ministère de la Culture, c'est ce que j'ai fait. Je suis un type au présent, moi. Hein. Je ne suis pas un intellectuel, je ne suis pas un type de culture. Je suis un
est-ce
homme...
que vous avez aimé travailler dans ce ministère?
J'ai toujours pas dans ce ministère. J'ai aimé travailler à la promotion des citoyens. Le service public, c'est une affaire. On en fait de l'administration. Mais l'administration, c'est rien, c'est un moyen.
Selon vous, le plus grand accomplissement du ministère de la Culture de l'époque, est-ce que c'est les maisons de la culture?
Oui, certainement. Mais en tout cas...
Quelles sont les grandes réalisations?
C'est d'exister.
Le fait que la culture existe.
La culture est devenue une chose courante, banale. C'est ça l'apport. Malraux n'a rien fait. Gaëtan Picon et moi, nous avons fait la culture.
Ce n'est pas Malraux, c'est vous et Gaëtan Picon.
On parle son nom partout. Je lis encore un article dans Libération que c'est Chérif Canada qui me l'a envoyé, qui est pour le 20e anniversaire de la création de la pyramide. Une fille raconte Malraux. Et elle dit d'ailleurs, Malraux a choisi un inconnu, Émile Biasini. Je connais pourtant cette journaliste. Malraux, on a besoin d'un nom. Malraux est un joli nom, d'ailleurs, c'est bien.
Est-ce que vous estimez que ce ministère a rompu avec le conformisme?
Non.
Une certaine forme de conformisme?
Non. Le ministère, depuis que Malraux est parti, c'est un prête-nom. Je n'ai connu aucun bon ministre de la Culture.
Non, je veux dire, à l'époque de Malraux et de vous,
on
quand
a
vous
créé
démarrez,
quelque chose.
Voilà. Est-ce que vous aviez cassé comme ça le conformisme qui existait au préalable?
Oui, en rendant accessible au plus grand nombre.
Parce que jusque-là, la culture était trop stéréotypée.
La culture, c'est un genre de vie. C'était un genre de vie de gens aisés. Mais la faute colossale, moi j'ai voulu, je me méfie de l'État, je me méfie de l'administration. Et je pense que l'État doit aider à faire de la culture, mais ne pas en faire. L'État doit choisir, donner de l'argent. J'ai demandé à Pompidou de supprimer le ministère de culture et d'en faire le ministère de gestion patrimoniale. Il y a quand même la Bibliothèque nationale, il y a les théâtres nationaux, il y a des tas de choses qui ont besoin d'argent. Or, les finances ne veulent pas donner de l'argent. Et le résultat, c'est qu'on mélange ce que j'appelle l'action culturelle avec la gestion du patrimoine. Moi, je propose qu'on fasse un ministère du patrimoine et qu'à côté, on crée une mission d'action culturelle qui dispose d'argent et qui l'en donne à des projets. Mais que l'État ne dirige rien. La culture, c'est le domaine privé, c'est le domaine des individus. Et j'avais mis en place un dispositif dans lequel je compare l'action de la culture à une bicyclette avec deux roues et deux roues égales financées par l'État et par la ville. Et 50-50. Et un pédaleur qui est un type individuel auquel on n'a pas donné d'ordre. Et la faute, pour moi, le ministère de la Culture a disparu quand ils ont supprimé l'égalité des droits et des devoirs entre les collectivités locales et l'État. J'avais fait 50-50, moi je connais les finances, bien sûr, ah, c'est trop. Le résultat, c'est qu'un ministre de la Culture a accepté de donner 48%. À ce moment-là, l'État a disparu.
Vous dites dans un de vos livres, dont le titre est « Grands travaux de l'Afrique au Louvre », édité aux éditions Odile Jacob, page 146, « Avec André Malraux et Gaëtan Picon, s'est réalisée la confluence d'une réflexion intellectuelle et politique avec l'expérience artisanale alimentée par les réalités ». Est-ce que vous pourriez nous commenter cette phrase ?
Ben oui, il fallait quelqu'un pour faire quelque chose. Malraux, n'en parlons pas. Picon, c'était un professeur de philo, c'était... Et il fallait un bonhomme capable de faire les choses. Et j'ai été celui-là. C'est pour ça que l'action culturelle est faite d'une philosophie de Malraux. Bien, n'en parlons plus. Mais cette philosophie, il faut la traduire en acte. Et c'est moi qui l'ai traduite en acte. C'est moi qui ai fait mes agricultures. Et personne d'autre.
Et vous êtes un homme de terrain, vous allez voyager beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre emploi du temps à l'époque ? De votre programme surchargé.
C'est-à-dire que c'est Picon qui a été à l'origine de ça. On a eu un coup de cœur réciproque. Et Picon a été... C'est lui qui, Malraux, lui dit « Mais j'ai trouvé un type qui va nous faire des maisons de la culture en Afrique. » Et Gaëtan dit « Mais pourquoi pas en France ?» Et un jour, Malraux m'a dit « Mais écoutez, ce que vous avez fait en Afrique, vous allez le faire en France. » Mais je ne connaissais pas la France, car je suis né... En 22, j'avais 18 ans, en 40, j'ai fait de la résistance, mais on ne sortait pas à cette époque-là. Et puis je suis parti en Afrique tout de suite après. Et pourquoi suis-je allé en Afrique ? Parce qu'un de mes camarades de classe m'a dit « Mais prépare le concours de colo, il est fait pour toi ». Effectivement, je l'ai préparé, mais j'étais dans le maquis à ce moment-là. J'ai passé clandestinement presque le concours. Et ce n'est qu'à la libération que j'ai su que j'avais réussi. Et à ce moment-là, découvrir la France. Alors j'ai parcouru la France. Je le dis dans le livre, j'ai passé tous mes week-ends pour connaître la France. J'ai pris tous les week-ends, j'allais passer dans une ville de province. Et je me mettais dans la peau des gens de la ville, la salle de concert, le théâtre, le rugby, enfin, tout. Je vivais le week-end à la provinciale. C'est comme ça, je ne crois pas que beaucoup de gens connaissent la France aussi. J'ai fait partout. J'ai passé des années à faire ça.
Vous rencontrez de grandes personnalités et des personnalités moins importantes. Quelle est la personne que vous retenez aujourd'hui ? Si vous aviez des coups de cœur à...
Qu'est-ce que vous appelez personnalité ?
Eh bien, par exemple, un artiste avec lequel vous auriez collaboré ou que vous aviez permis de faire connaître.
Ou qui ? J'ai connu beaucoup de gens.
Vous pouvez les redire ?
Soulage est devenu un ami, Zahouki aussi, mais d'autres. Mais vous savez, tout ça est occasionnel, on aime les choses. Il n'y a personne dont je suis...
Comment s'est passée, par exemple, votre collaboration avec Le Corbusier ?
Très bien, mais j'en parle. Ça. Le Corbusier était un type qui était maltraité et qui avait surtout l'architecture une idée saine. Vous savez, l'architecture... C'est Valéry a mis comme premier des arts parce que c'est le seul qui repose sur des bases sociales. On a besoin qui exige des compétences techniques et qui est beau par-dessus. Mais quand les architectes, un type comme, enfin je ne dirai pas de nom, mais comme ces architectes qui font d'abord, ils font un dessin pour que tout rentre. Moi, je les ai écartés, ceux-là. Je pense à un architecte qu'on dit célèbre aujourd'hui et que j'ai refusé.
Vous avez dû faire face à des pressions politiques pour
parrainer... Je n'ai jamais accepté une pression politique. Jamais.
Pour parrainer tel architecte.
Jamais.
Est-ce que ça vous a valu des médisances ?
Ça m'a valu de faire une carrière. J'ai fini comme Grand Croix de la Légion d'honneur. Je crois que mon indépendance a été admise. Mais je n'ai jamais eu un patron, jamais.
Quelles sont les grandes réalisations, les grands architectes que vous avez aidé à faire connaître et surtout les grands monuments que vous avez réalisés
Je n'ai pas réalisé, j'ai réalisé en Aquitaine.
Les grands projets que vous avez menés à bien, je veux dire.
Les grands projets, c'est d'abord les maisons de culture et ensuite les grands travaux de Mitterrand.
Les grands travaux du Louvre.
Les grands travaux de Mitterrand, la bibliothèque, le muséum, Le collège de Fay, il y en a d'autres.
Vous pourriez nous en énumérer quelques-unes parce que nos auditeurs écoutent, ils ne peuvent pas lire.
Les grands travaux de Mitterrand, ceux dont j'ai eu la responsabilité, c'est d'abord le Louvre, ensuite la Bibliothèque de France, le Muséum, le Collège de France. J'ai échoué sur le musée d'art moderne que je voulais faire à Bercy, parce que c'est devenu politiquement, il y a eu des entraves politiques nombreuses. Et j'ai fait aussi le Centre de culture française de Nouvelle-Calédonie, qui donnait un piano. C'était... Ah non, j'ai fait des choses. Et en Aquitaine, alors, j'ai fait tout ce qu'on peut faire. J'ai dû faire des milliers de maisons.
C'est vous qui avez choisi Pei pour la pyramide du
oui,
Louvre.
Oui,
c'est
oui.
Un projet qui a beaucoup oui, suscité de controverses et de polémiques. Aujourd'hui, comment vous regardez cette réalisation après tant de polémiques et finalement...
Mais la polémique, ça ne tient pas debout. C'est la polémique, ça, c'est les journaux qui font ça. C'est les gars qui... Pensez qu'il y a un gars, il est mort, qui, quand il a su que j'allais creuser les Tuileries, a osé écrire... Si l'on fouillait le sol sacré des Tuileries, les chassepots partiraient tout seuls. Vous savez, la gloire des... Moi, je ne connais personne dans le monde, des gens obligés, au contraire, à la communication. Je ne connais pas qui soit capable de créer beaucoup de choses.
La Bibliothèque nationale de France a également suscité beaucoup de polémiques.
Parce qu'il y a toujours des gens qui ne pensent pas avoir l'emploi qu'ils devraient avoir.
L'architecte de la BNF n'avait soi-disant pas pensé à la protection des livres au niveau de la lumière. Vous répondez quoi ?
On fait des bibliothèques avec des livres maintenant dans les tours, quand on s'aperçoit que c'est beaucoup plus pratique qu'en sous-sol.
Oui, mais ça ne protège pas de la lumière et ça abîme les livres.
Il suffit de mettre un truc pour protéger la lumière.
On s'est rendu compte 4 ans après que l'architecte n'avait pas pensé justement à protéger les livres.
Monsieur, il avait pensé à protéger les livres. Qui s'est rendu compte de ça ? C'est pas vrai. Je l'ai fait. Je l'ai voulu. Je l'ai choisi. Je l'ai fait. Et je peux vous dire que si j'avais... Enfin, allez dire qu'on n'a pas pensé à protéger les livres de la lumière. Parce qu'on peut penser les gens assez bêtes pour ça ? Ou faut-il être assez bête pour le dire ?
Beaucoup de blabla journalistique.
Les gens, vous savez, j'ai admis ou refusé des choses, et quand je les ai refusées, je les ai refusées. Il n'y a personne. La bibliothèque, ça a été fait par M. Leroy Ladurie, qui était patron de la Bibliothèque nationale, et qui se voyait très bien patron de la nouvelle bibliothèque. Or, la nouvelle bibliothèque l'a dépassée, car Mitterrand a voulu quelque chose, c'est fait maintenant, ouvert à toutes les... manière de communiquer. Et le roi Ladurie a joué une campagne. Il est intelligent. Mais comment a-t-il osé ? Je l'ai convoqué un jour où j'avais lu dans un journal des propos qui lui étaient prêtés. Il les a niés. Je lui ai dit, si vous voulez démissionner, je prends votre démission. Il a refusé. Vous savez, les postes, les gens qui ont des postes. Moi, j'ai une force. Et je pense qu'il n'y a pas tellement de gens qui l'ont. C'est l'indépendance. Je suis un type totalement indépendant. Et je n'ai jamais voulu pour cela, par exemple, avoir une maison. Je suis chez ma fille ici. Je n'ai rien. C'est un peu du snobisme, je le reconnais, mais parce que j'ai les moyens d'avoir rien. Mais j'ai ma retraite. J'ai construit des milliers de maisons. Et quand on fait des maisons, les gens honnêtes, les entrepreneurs honnêtes, sont d'accord pour vous la vendre au prix où elle revient à eux. C'est comme ça qu'en général, tous les gars qui construisent... Moi, j'ai refusé ça. Et les malhonnêtes, la donnent. Rien.
On termine, M. Biasini, sur la fin du ministère de la Culture en 2 mots. Comment se termine l'histoire au ministère des Affaires culturelles ? Il semblerait que Malraux s'oppose à tout ce qui vous concerne.
Malraux m'a vidé. Pour une raison qu'il n'a jamais donnée, et que personne n'a donnée, et que sa femme, avec qui je suis très ami, ne connaît pas. J'ai une petite idée là-dessus, que je ne peux pas dire, parce que... Mais... Je n'ai jamais cédé à Malraux. Et je pense que c'est un homme qui n'acceptait pas d'avoir des gens indépendants. Puis il y a eu surtout des intrigues de cabinet. Malraux ne s'est plus occupé de son ministère après la mort de ses enfants et autres. Et il a laissé son cabinet. Et là, j'avais recruté pour diriger l'administration du ministère un de mes camarades de promotion, qui est un type assez fort, et qui a été jaloux de moi et qui a monté une affaire épouvantable. Ils m'ont vidé alors qu'il était... Et Gaëtan Picon a eu l'élégance de démissionner pour cela. Il m'a suivi, il a travaillé avec moi à la télévision, il a travaillé avec moi en Aquitaine, puisqu'il est Aquitaine d'origine. Aussi longtemps qu'il a vécu, il a été d'une amitié fantastique. On était... Enfin...
C'était donc Émile Biasini, l'ancien bras droit de Malraux. Il était directeur des Arts et des Lettres en 1959 au ministère des Affaires culturelles, ministère créé à la demande de De Gaulle pour donner à la culture cette place qu'elle n'avait pas alors. Et nous avons donc écouté les souvenirs intacts de ce grand homme de gestion publique qui nous proposait son souvenir à l'occasion du cinquantenaire de la naissance du ministère. Thank you.